Chapitre 65. On était pour lors en avril, l'air avait été doux, puis il gela rudement, et le ciel fut gris comme un ciel du jour des morts. La troisième année de bannissement d'Eulenspiegel était depuis longtemps écoulée, et Nell l'attendait tous les jours, son amie. « Las, disait-elle, il va neiger sur les poiriers, sur les jasmins en fleurs, sur toutes les pauvres plantes épanouies avec confiance à la tiède chaleur d'un précoce renouveau. Déjà de petits flocons tombent du ciel sur les chemins, et il neige aussi sur mon pauvre cœur. Où sont-ils les clairs rayons se jouant sur les visages joyeux, sur les toits qu'il faisait plus rouges, sur les vitres qu'il faisait flambantes? Où sont-ils, réchauffant la terre et le ciel, les oiseaux et les insectes? Las, maintenant de nuit et de jour, je suis refroidi de tristesse et longue attente. Où es-tu, mon ami Eulenspiegel ?» Eulenspiegel, s'approchant de René en Flandre, eut faim et soif, mais il ne voulait point geindre, et il essayait de faire rire les gens pour qu'on lui donnât du pain. Mais il riait mal toutefois, et les gens passaient sans rien donner. Il faisait froid. Tour à tour il neigeait, pleuvait, grêlait sur le dos du vagabond. S'il passait par les villages, l'eau lui venait à la bouche, rien qu'avoir un chien rongeant un os au coin d'un mur. Il eût bien voulu gagner un florin, mais ne savait comment le florin pourrait lui tomber dans la gypsière. Cherchant en haut, il voyait les pigeons qui, du toit d'un colombier, laissaient sur le chemin tomber des pièces blanches, mais ce n'était point des florins. Il cherchait par terre sur les chaussées, mais les florins ne fleurissaient pas entre les pavés. Cherchant à droite, il voyait bien un vilain nuage qui s'avançait dans le ciel, comme un grand arrosoir, mais il savait que si de ce nuage quelque chose devait tomber, ce ne serait point une averse de florins. Cherchant à gauche, il voyait un grand fainéant de marronnier d'Inde, vivant sans rien faire. « Ah !» se disait-il, « pourquoi n'y a-t-il pas de florinier ? Ce serait de bien beaux arbres. » Soudain, le gros nuage creva, et les grêlons en tombèrent dru comme cailloux sur le dos d'Eulenspiegel. « Mais ah !» dit-il, « je le sens assez, on ne jette jamais de pierre qu'au chien errant. » Puis, se mettant à courir, « mais c'est pas de ma faute, se disait-il, si je n'ai point un palais, ni même une tente pour abriter mon corps maigre. Oh, les méchants grêlons, ils sont durs comme des boulets. Non, non, c'est pas de ma faute si je traîne par le monde mes guenilles. C'est seulement parce que cela m'a plu. Que ne suis-je empereur ? Ces grêlons veulent entrer de force dans mes oreilles comme de mauvaises paroles. » Et il courait. « Pauvre nez, ajoutait-il, tu seras bientôt percé à jour, et tu pourras servir de poivrier dans les festins des grands de ce monde sur lesquels ils ne grêlent point. » Puis, essuyant ses joues, « oh, celles-ci, dit-il, serviront bien d'écumoire aux cuisiniers qui ont chaud près de leur fourneau. Ah, lointaine souvenance des sauces d'autrefois. J'ai faim. Votre vide ne te plaît point, dolentes entrailles, et ne gargouillez pas davantage. Où te caches-tu, fortune propice? Mène-moi vers l'endroit où est ta pâture. » Tandis qu'il se parlait ainsi à lui-même, le ciel s'éclaircit au soleil, qui brilla, et la graisse cessa, et Eulenspiegel dit « Bonjour soleil, mon seul ami, qui vient pour me sécher. » Mais il courait toujours, ayant froid. Soudain, il vit venir de loin sur le chemin un chien blanc et noir, courant tout droit devant lui, la langue pendante et les yeux hors de la tête. Cette bête, dit Eulenspiegel, a la rage au ventre. Il ramassa à la hâte une grosse pierre et monta sur un arbre. Comme il en atteignait la première branche, le chien passa et Eulenspiegel lui lança la pierre sur le crâne. Le chien s'arrêta et tristement et raidement voulut monter sur l'arbre et mordre Eulenspiegel, mais il ne le put et tomba pour mourir. Eulenspiegel n'en fut pas joyeux, et bien moins lorsque, descendant de l'arbre, il s'aperçut que le chien n'avait pas la gueule sèche, ainsi que l'on de coutume ses pareils atteints de mal à rage. Puis, considérant sa peau, il vit qu'elle était belle et bonne à vendre, la lui enleva, la lava, la pendit à son épieu, la laissa se sécher un peu au soleil, puis la mit dans sa gibecière. La faim et la soif le tourmentant davantage, il entra dans plusieurs fermes, n'osa y vendre sa peau de crainte qu'elle ne fût celle d'un chien ayant appartenu aux paysans. Il demanda du pain, on le lui refusa. La nuit venait, ses jambes étaient lasses, il entra dans une petite auberge. Il y vit une vieille baïsine qui caressait un vieux chien tousseux dont la peau était semblable à celle du mort. « D'où viens-tu, voyageur ?» lui demanda la vieille baïsine. Mais je viens de Rome, où j'ai guéri le chien du pape d'une pituite qui le gênait extraordinairement. « Tu as donc vu le pape ?» lui dit-elle, en lui tirant un verre de bière. « Hélas !» dit Eulenspiegel, vidant le verre, « il m'a seulement été permis de baiser son pied sacré et sa sainte pantoufle. » Cependant, le vieux chien de la baïsine toussait et ne crachait point. « Quand fis-tu cela ?» demanda la vieille. Ben, « le mois avant dernier, » répondit Eulenspiegel, « j'arrivais étant attendu et frappé à la porte. »« Qui est là ?» demanda le camérier archidarkninal, archi-secret, archi-extraordinaire de sa très sainte sainteté. « C'est moi, répondis-je, monseigneur cardinal, qui vient de Flandre expressément pour baiser le pied du pape et guérir son chien de la pituite. »« Ah, c'est toi, Eulenspiegel, » dit le pape, parlant de l'autre côté d'une petite porte. « Oh, je serais bien aise de te voir, mais c'est chose impossible présentement. Il m'est défendu par les saintes décrétales de montrer mon visage aux étrangers quand on y passe le saint rasoir. Hélas, dis-je, je suis bien infortuné, moi qui viens de si lointain pays pour baiser le pied de votre sainteté et guérir son chien de la pituite. Faut-il m'en retourner sans être satisfait ? Non, dit le Saint-Père. Puis je l'entendis criant, « Archicamérier, glissez mon fauteuil jusqu'à la porte et ouvrez le petit guichet qui est au bas. » Ce qui se fit. Et je vis passer par le guichet un pied chaussé d'une pantoufle d'or et j'entendis une voix parlant comme un tonnerre, disant « Ceci est le pied redoutable du prince des princes, du roi des rois, de l'empereur des empereurs. Baise, chrétien, baise la sainte pantoufle. » Et je baisais la sainte pantoufle et j'eus le nez tout embaumé du céleste parfum qui s'exhalait de ce pied. Puis le guichet se referma, et la même redoutable voix me dit d'attendre. Le guichet se rouvrit, et il en sortit, sauf votre respect, un animal au poil pelé, chassieux, tousseux, gonflé comme une outre et forcé de marcher les pattes écartées à cause de la largeur de sa bedaine. Mais le Saint-Pierre daigna parler encore. « Eulenspiegel, dit-il, tu vois mon chien ? Il fut pris de pituite et d'autres maladies en rongeant des os d'hérétiques auxquelles on les avait rompus. Guéris-le, mon fils, tu t'en trouveras bien. »« Bois, dit la vieille. »« Verse, répondit Eulenspiegel. Poursuivant son propos, « Je purgeais, dit-il, le chien à l'aide d'une boisson mirifique par moi-même composée. Il en pissa pendant 3 jours et 3 nuits et sans cesse, il fut guéri. « Jésus, gloire de Maria, dit la vieille, laisse-moi te baiser, glorieux pèlerin, qui a vu le pape, et pourra aussi guérir mon chien. » Mais Eulenspiegel, ne se souciant point des baisers de la vieille, lui dit, « Oh, ceux qui ont touché des lèvres la sainte pantoufle ne peuvent, en dehors les 2 ans, recevoir les baisers d'aucune femme. Allez, donne-moi à souper quelques bonnes carbonades, un boudin ou 2, et de la bière à suffisance, et je ferai à ton chien une voix si claire qu'il pourra chanter les aves en la au jubé de la grande église. » « Oh, puisses-tu dire vrai, gémit la vieille, et je te donnerai un florin. »« Je le ferai, répondit Eulenspiegel, mais seulement après le souper. » Elle lui servit ce qu'il avait demandé. Il mangea et but tout son sou, et il eut bien, par gratitude de gueule, embrassé la vieille, n'était ce qu'il lui avait dit. Tandis qu'il mangeait, le vieux chien mettait les pattes sur ses genoux pour avoir un os. Eulenspiegel lui en donna plusieurs, mais il dit à l'hôtesse, « Si quelqu'un avait mangé chez toi et ne te payait pas, que ferais-tu ?»« Bon, j'ôterais à ce larron son meilleur vêtement, » répondit la vieille. « C'est bien, » me repartit Eulenspiegel. Puis il mit le chien sous son bras et entra dans l'écurie. Là, il l'enferma avec un os, sortit de sa gypsière la peau du mort, et revenant près de la vieille, il lui demanda si elle avait dit qu'elle enlèverait son meilleur vêtement à celui qui ne lui paierait point son repas. « Oui, » répondit-elle. « Eh bien, ton chien a dîné avec moi, il ne m'a pas payé, alors je vais donc enlever, suivant ton précepte, son meilleur et son seul habit. » Et il lui montra la peau du chien mort. « Oh !» dit la vieille pleurant, « mais c'est cruel à toi, monsieur le médecin. Pauvre chiennet, il était pour moi veuve mon enfant. » « Pourquoi m'enlevas-tu le seul ami que j'eusse au monde ? Oh, je puis bien mourir maintenant. »« Moi, je le ressusciterai, » dit Eulenspiegel. « Ressuscité, » dit-elle. « Et il me caressera encore, et il me regardera encore, et il me léchera encore, et il fera encore aller en me regardant son pauvre vieux bout de queue. Oh, faites-le, monsieur le médecin. » Et vous aurez dîné gratis, un dîner bien coûteux, et je vous donnerai encore plus d'un florin par-dessus le marché. » Je le ressusciterai, dit Eulenspiegel, mais il me faut de l'eau chaude, du sirop pour coller les jointures, une aiguille et du fil et de la sauce de carbonade, et je veux être seul durant l'opération. La vieille lui donna ce qu'il demandait. Il reprit la peau du chien mort et s'enfuit à l'écurie. Là, il barbouilla de sauce le museau du vieux chien qui se laissa faire joyeusement. Il lui traça une grande raie au sirop sous le ventre. Il lui mit du sirop au bout des pattes et de la sauce à la queue. Poussant 3 fois un grand cri, il dit alors « Stait op, it vevel vilnonde !» Puis mettant prestement la peau du chien mort dans sa gypsière, il bailla un grand coup de pied au vivant et le poussa aussi dans les salles de l'auberge. La vieille, voyant son chien en vie et se pourléchant, voulut tout aise l'embrasser, mais Eulenspiegel ne le permit pas. « Tu ne pourras, lui dit-il, caresser ce chien qu'il n'ait lavé de sa langue tout le sirop dont il est enduit. Alors seulement les coutures de la peau seront fermées. Bon bien, compte-moi maintenant mes 10 florins. Ah, j'avais dit 1, répondit la vieille. Bah, 1 pour l'opération, mais 9 pour la résurrection, répondit Eulenspiegel. Elle les lui compta. Eulenspiegel s'en fut, jetant dans la salle de l'auberge la peau du chien mort et disant « Tiens, femme, garde sa vieille peau. Elle te servira à rapiécer la neuve quand elle aura des trous. » Ce dimanche-là eut lieu à Bruges la procession du Saint-Sang. Claëse dit à sa femme et à Nel de l'aller voir et que, peut-être, elle trouverait Eulenspiegel en ville. Quant à lui, disait-il, il garderait la chaumine en attendant que le pèlerin y rentrât. Les femmes partirent à deux. Claëse demeurait à Dame, s'assit sur le bas de la porte et trouva la ville bien déserte. Il n'entendait rien, sinon le son cristallin de quelques cloches villageoises, tandis que de Bruges lui arrivait par bouffées la musique des carillons et un grand fracas de fauconneaux et de boîtes d'artifice tirées en l'honneur du Saint-Sang. Claës, cherchant tout songeur Eulenspiegel sur les chemins, ne voyait rien, sinon le ciel clair et tout bleu sans nuages, quelques chiens couchés tirant la langue au soleil, des moines offrants se baignant en pépillant dans la poussière, un chat qui les guettait, et la lumière entrant à mille dans toutes les maisons et y faisant briller sur les dressoirs les chaudrons de cuivre et la nappe d'étain. Mais Claës était triste au milieu de cette joie, et cherchant son fils, il tâchait de le voir derrière le brouillard gris des prairies, de l'entendre dans le joyeux bruissement des feuilles et le gai concert des oiseaux dans les arbres. Soudain, il vit, sur le chemin venant de Maldehem, un homme de haute stature et reconnut que ce n'était pas Eulenspiegel. Il le vit s'arrêter au bord d'un champ de carottes et mangeait de ses légumes avidement. « Voilà un homme qui a grand faim, » dit Claës. L'ayant perdu de vue un moment, il le vit réapparaître au coin de la rue du Héron, et il reconnut le messager de Jos qui lui avait apporté les 700 carolus d'or. Il alla à lui sur le chemin et dit « Mais entre chez moi !» L'homme répondit « Bénis ceux qui sont doux voyageurs errants. » Il y avait, sur l'appui extérieur de la fenêtre de la chaumière, du pain émietté que Sutkin réservait aux oiseaux des alentours. Ils y venaient l'hiver chercher leur nourriture. L'homme prit de ces miettes quelques-unes qu'il mangea. « Tu as faim et soif ?» dit Claës. L'homme répondit « Oh oui, depuis 8 jours que je fus détroussé par les larrons, je ne me nourris que de carottes dans les champs et de racines dans les bois. »« Donc, dit Claës, c'est l'heure de faire ripaille. »« Et voici, dit-il en ouvrant la huche, une pleine écuellée de pois, des œufs boudins, jambons, saucissons de gants, Vaderzoï, hoche-peau le poisson. En bas, dans la cave, sommeille le vin de Louvain, préparé à la façon de ceux de Bourgogne, rouge et clair comme rubis. Il ne demande que le réveil des vers. Or ça, mettons un fagot au feu. Entends-tu les boudins chanter sur le gris? C'est la chanson de bonne nourriture. Claës, les tournant et retournant, dit à l'homme, N'as-tu pas vu mon fils ou l'Alspiegel? Non, répondit-il. Apportes-tu des nouvelles de Joss, mon frère? Dit Klaas, mettant sur la table les boudins grillés, une omelette au gras jambon, du fromage et de gras à nappe, le vin d'Oulvin rouge et clair brillant dans les flocons. L'homme répondit. Ton frère Joss est mort sur la route à Sibnaken Predex. Et ce, pour avoir, étant hérétique, porté les armes contre l'empereur. Klaes fut comme affolé, et il dit tremblant de tout son corps, car sa colère était grande. Méchant bourreau, Joss, mon pauvre frère. L'homme dit alors, sans douceur, nos joies et douleurs ne sont point de ce monde. Il se mit à manger, puis il dit j'assistais ton frère en sa prison, en me faisant passer pour un paysan de Nisviller, son parent. Je viens ici parce qu'il m'a dit si tu ne meurs point pour la foi commune comme moi, va près de mon frère Klaes, mande-lui de vivre en la paix du Seigneur, pratiquant les œuvres de miséricorde, élevant son fils en secret dans la loi du Christ. L'argent que je lui donnais fut pris sur le pauvre peuple ignorant, et qu'il l'emploie, élevait-il, en la science de Dieu et de la parole. Ce qu'ayant dit, le messager donna à Klaes le baiser de paix. Et Klaes, se lamentant, disait « Mort sur la roue, mon pauvre frère !» Et il ne pouvait se ravoir de sa grande douleur. Toutefois, comme il vit que l'homme avait soif et tendait son verre, il lui versa du vin, mais il mangea et but sans plaisir. Soetkin et Nele furent absentes pendant 7 jours. Durant ce temps, le messager de Joss habita sous le toit de Klaes. Toutes les nuits, ils entendaient Kathleen hurlant dans la chaumine. « Le feu, le feu! Creusez un trou, l'âme veut sortir !» Et Klaes allait près d'elle, la calmait par douces paroles, puis rentrait dans son logis. Au bout de 7 jours, l'homme partit et ne voulut recevoir de Klaes que 2 carolus pour se nourrir et s'héberger en chemin. Nelly et Soetkin étaient revenus de Bruges. Klaes, dans sa cuisine, assis par terre à la façon des tailleurs, mettait du bouton à un vieil haut de chausse. Nelly était près de lui, agaçant, contre la cigogne Titus Bibulus Nufius, qui se lançant sur elle, se reculant tour à tour, piaillait de sa voix la plus claire. La cigogne, debout sur une patte, le regardant grave et pensive, rentrait son long cou dans les plumes de sa poitrine. Titus Bibulus Nufius, la voyant paisible, piaillait plus terriblement. Mais soudain l'oiseau, ennuyé de cette musique, décocha son bec comme une flèche dans le dos du chien, qui s'enfuit en criant « À l'aide !» Klaes riait. Nel pareillement et Soetkin ne cessaient de regarder dans la rue, cherchant si elle ne verrait point venir Eulenspiegel. Soudain, elle dit « voici le prévôt et 4 sergents de justice. Oh, c'est pas à nous sans doute qu'ils en veulent. Il y en a 2 qui tournent autour de la chaumine. » Klaes leva le nez de dessus son ouvrage. « Et 2 qui s'arrêtent devant ?» continua Soetkin. Klaes se leva. qui va-t-on appréhender en cette rue ? Dit-il. Mais Jésus-Dieu, mon homme, ils entrent ici. Clarisse sauta de la cuisine dans le jardin, s'y vit de nez. Il lui dit « Sauve les Carolus, ils sont derrière le contrecœur de la cheminée. » Nel le comprit, puis voyant qu'il passait par-dessus la haie, que les sergents le happaient au collet et qu'il les battait pour se défaire d'eux, elle cria et pleura. « Mais il est innocent, il est innocent, ne faites pas de mal à Klaes, mon père. Ulan, Spiegel, où es-tu? Mais tu les tuerais tous deux !» Elle se jeta sur l'un des sergents et déchira le visage de ses ongles. Puis, criant « Ils le tueront !» elle tomba sur le gazon du jardin et s'y roula éperdue. Kathleen était venue au bruit et, droite et immobile, considérait le spectacle, disant, branlant la tête, « Oh, le feu, creusez un trou, l'homme veut sortir !» Cette qui ne voyait rien. Et parlant au sergent, entré dans la chaumine, « Messieurs, mais que cherchez-vous à notre pauvre demeure ? Oh, si c'est mon fils, il est loin. Vos jambes sont-elles longues ?» Se disant, elle était joyeuse. En ce moment, elle criant à l'aide, Sedkin courut dans le jardin, vit son homme happé au collet et se débattant sur le chemin près de la haie. « Frappe, dit-elle, et tue ! Oh, Ulenspiegel, où es-tu ? » Et elle voulut aller porter secours à son homme, mais l'un des sergents la prit au corps, non sans danger. Klaes se débattait et frappait si fort qu'il eût bien pu s'échapper si les deux sergents auxquels avait parlé Sedkin ne fussent venus en aide à ceux qui le tenaient. Ils le ramenèrent, les deux mains liées, dans la cuisine, où Sedkin et Nel pleuraient à sanglots. « Monsieur Prévost, dit Sedkin, mais qu'a donc fait mon pauvre homme ? Pour que vous le liez ainsi de ses cordes ?»« Hérétique !» dit l'un des sergents. « Hérétique ?» repartit Sedkin. « Tu es hérétique, toi ? Mais ces démons ont menti. » Klaes répondit. « Oh, je me remets en la garde de Dieu. » Il sortit. Nel et Sedkin le suivirent pleurant et croyant qu'on les allait aussi mener devant le juge. Bons hommes et commères vinrent à elle. Quand ils surent que Klaes marchait ainsi lié parce qu'il était soupçonné d'hérésie, ils eurent si grande peur qu'ils rentrèrent en hâte dans leur maison en fermant derrière eux toutes les portes. Quelques fillettes seulement osèrent venir à Klaes et lui dire « Où t'en vas-tu, charbonnier ?»« À la grâce de Dieu, fillette, » répondit-il. On le mena dans la prison de la commune. Sedkin et Nel s'assirent sur le seuil. Vers le soir, Sedkin dit à Nel de la laisser pour aller voir si Ulenspiegel ne revenait point. La nouvelle courut bientôt dans les villages voisins que l'on avait emprisonné un homme pour cause d'hérésie et que l'inquisiteur Tittelmann, doyen de Renex, surnommé l'inquisiteur sans pitié, dirigeait les interrogatoires. Ulenspiegel vivait alors à Kulkerke, dans l'intime faveur d'une mignonne fermière, douce veuve qui ne lui refusait rien de ce qui était à elle. Il y fut bien heureux, choyé et caressé, jusqu'au jour où un traître rival, échevin de la commune, l'attendit un matin qu'il sortait de la taverne et voulut le frotter de chaîne. Mais Ulenspiegel, pour lui rafraîchir sa colère, le jeta dans une mare, d'où l'échevin sortit de son mieux, vert comme un crapaud et trempé comme une éponge. Boulenspiegel, pour ce haut fait, dut quitter Kohlkerke et s'enfuit à toutes jambes vers Dame, craignant la vengeance de l'échevin. Le soir tombait frais. Boulenspiegel courait vite. Il eût voulu déjà être au logis. Il voyait en son esprit nés les cousins, ceux qui préparent le souper, Claes liant les fagots, Schnuffius rongeant un os, et la cigogne frappant sur le ventre de la ménagère pour avoir quelques miettes de nourriture. Un colporteur piéton lui dit en passant: « Où t'en vas-tu ainsi courant ?»« Madame, à mon logis, » répondit Eulenspiegel. Le piéton dit: « Oh, la ville est plus sûre à cause des réformes et qu'on y arrête. » Et il passa. Arrivé devant l'auberge du Rode de Schilt, Eulenspiegel y entra pour boire un verre de Doppelkout. Le basse lui dit: « N'es-tu point le fils de Claes ?»« Moi, je le suis, » répondit Eulenspiegel. « Hâte-toi, » dit le basse, « car la malheur a sonné pour ton père. » Eulenspiegel lui demanda ce qu'il voulait dire. Le basse répondit qu'il le saurait trop tôt. Et Eulenspiegel continua de courir. Comme il était à l'entrée de Dame, les chiens qui se tenaient sur le seuil des portes lui sautèrent aux jambes en jappant et en aboyant. Les commères sortirent au bruit et lui dirent, parlant toutes à la fois: « D'où viens-tu? As-tu des nouvelles de ton père? Où est ta mère? Est-elle aussi avec lui en prison? Oh là, pourvu qu'on ne le brûle pas !» Boulenspiegel courait plus fort. Il rencontre un aile qui lui dit: « Til, ne va pas à ta maison. Ceux de la ville lui ont mis un gardien de la part de sa majesté. » Eulenspiegel s'arrêta. « Nelle, dit-il, est-il vrai que Claes, mon père, soit en prison ?»«
Oui, dit Nelle, et Sotkin pleure sur le seuil. »
Alors le cœur du fils prodigue fut gonflé de douleur et il dit à Nelle:
oh, « Je vais les voir. »« Ce n'est pas ce que tu dois faire, » dit-elle, « mais bien obéir à Claes, qui m'a dit avant d'être pris, « Sauve les Carolus, ils sont derrière le contre-cœur de la cheminée. Ce sont ceux-là qu'il faut sauver d'abord, car c'est l'héritage de ce Hutkin, la pauvre commère. »
Eulenspiegel, n'écoutant rien, courut jusqu'à la prison. Là, il vit sur le seuil Sotkin assise. Elle l'embrassa avec larmes et ils pleurèrent ensemble. Le populaire, s'assemblant à cause d'eux, en foule devant la prison, des sergents vinrent et dirent à Eulenspiegel et à Sotkin qu'ils eussent à déguerpir de là au plus tôt. La mère et le fils s'enfuirent en la chaumine de Nelle, voisine de leur logis, devant lequel ils virent un des soudards lansquenets mandé de Bruges par crainte des troubles qui pourraient subvenir pendant le jugement et durant l'exécution. Car ceux de Dame aimaient Claes grandement. Le soudard était assis sur le pavé devant la porte, occupé à humer hors d'un flacon la dernière goutte de brandevin. N'y trouvant plus rien, il le jeta à quelques pas, et tirant son braguemar, il prit son plaisir à déchausser les pavés. Sotkin entra chez Kathleen toute pleurante.
Et Kathleen hochant la tête. Oh, le feu! Creusez un trou, l'homme veut sortir, dit-elle.
La cloche, dite Borgstorm, la tempête du bourg, ayant appelé les juges au tribunal, ils se réunirent dans la Wirtschere sur les 4 heures autour du tilleul de justice. Claes fut mené devant eux et vit, siégeant sous le dais, le bailli de dame, puis à ses côtés et vis-à-vis de celui-ci, le meilleur, les échevins et le greffier. Le populaire accourut au son de la cloche en grande multitude et disant « Beaucoup d'autres, les juges, ne sont pas là pour faire œuvre de justice, mais le servage impérial. » Le greffier déclara que le tribunal s'étant réuni préalablement dans la Wirtschere autour du tilleul, avait décidé que, vu et entendu les dénonciations et témoignages, il y avait eu lieu d'appréhender au corps Claes, charbonnier, natif de Dame, époux de Seutkin, fille de Jostens. Ils allaient maintenant, ajouta-t-il, procéder à l'audition des témoins. Hans Barbier, voisin de Claes, fut d'abord entendu. Ayant prêté serment, il dit « Sur le salut de mon âme, j'affirme et assure que Claes, présent devant ce tribunal, est connu de moi depuis bientôt 17 ans, qu'il a toujours vécu honnêtement et suivant les lois de notre Sainte Mère Église, n'a jamais parlé d'elle opprobrieusement, ni logé à ma connaissance aucun hérétique, ni caché le livre de Luther, ni parler du dit livre, ni rien fait qui le puisse faire soupçonner d'avoir manqué aux lois et ordonnances de l'Empire. Ainsi m'est Dieu et tous ses saints. » Jan van Roosbeek fut alors entendu et dit que, durant l'absence de Seutkin, femme de Claes, il avait maintes fois cru entendre dans la maison de l'accusé deux voix d'hommes, et que souvent le soir, après le couvre-feu, il avait vu dans une petite salle sous le toit une lumière et deux hommes, dont l'un était Claes, devisant ensemble. Quant à dire si l'autre homme était ou non hérétique, il ne le pouvait ne l'ayant vu que de loin. Pour ce qui est de Claes, ajouta-t-il, je dirais, parlant en toute vérité, que depuis que je le connais, il fit toujours ses Pâques régulièrement, communia aux grandes fêtes, alla à la messe tous les dimanches, sauf celui du 500 et les suivants. Et je ne sais rien davantage. Ainsi m'est Dieu et tous ses saints. Interrogé, ou s'il n'avait point vu dans la taverne de la Bleuve Tor, Glaes vendant des indulgences et se gaussant du purgatoire, Jan van Roosbeek répondit qu'en effet, Claes avait vendu des indulgences, mais sans mépris ni gaudisserie, et que lui, Jan van Roosbeek, en avait acheté, comme aussi avait voulu le faire Jos Gripstriver, le doyen des poissonniers, qui était là, dans la foule. Le bailli dit ensuite qu'il allait faire connaître les faits et gestes pour lesquels Claes était amené devant le tribunal de la Wirtschere. Le dénonciateur, dit-il, étant d'aventure resté à Dame, afin de n'aller point à Bruges dépenser son argent en os et ripailles, ainsi que cela se pratique trop souvent dans ces saintes occasions, humait l'air sobrement sur le pas de sa porte. Étant là, il vit un homme qui marchait dans la rue du Héron. Claes,
En apercevant l'homme, alla à lui et le salua. L'homme était vêtu de toile noire. Il entra chez Claès et le parc de la chaume fut laissé entr'ouvert. Curieux de savoir quel était cet homme, le dénonciateur entra dans le vestibule, entendit Claès parlant dans la cuisine avec l'étranger d'un certain Jos, son frère, qui ayant été fait prisonnier parmi les troupes réformées, fut pour ce fait roué vif non loin d'Aix. L'étranger dit à Claès que l'argent qu'il avait reçu de son frère, étant de l'argent gagné sur l'ignorance du pauvre monde, il le devait employer à élever son fils dans la religion réformée. Il avait aussi engagé Claès à quitter le giron de notre mère Sainte Église et prononcer d'autres paroles impies, auxquelles Claès répondait seulement par ces paroles « Cruel bourreau, mon pauvre frère !» Et l'accusé blasphémait ainsi notre Saint-Père le Pape et Sa Majesté royale en les accusant de cruauté parce qu'il punissait justement l'hérésie comme un crime de lèse-majesté divine et humaine. Et quand l'homme eut fini de manger, le dénonciateur entendit Claès s'écrier « Pauvre Jos, que Dieu est en sa gloire, il fut cruel pour toi !» Il accusait ainsi, dit eux-mêmes, d'impiété, en jugeant qu'il peut recevoir dans son ciel des hérétiques. Et Claès ne cessait de dire « Mon pauvre frère !» L'étranger, entrant alors en fureur comme un prédicant à son prêche, s'écria « Elle tombera, la grande Babylone, la prostituée romaine, et elle deviendra la demeure des démons et le repère de tout oiseau exécrable. » Claès disait « Cruel bourreau, mon pauvre frère !» L'étranger, poursuivant son propos, disait « Car l'ange prendra la pierre qui est grande comme une meule, et elle sera lancée dans la mer, et il dira « Ainsi sera jetée la grande Babylone, et elle ne sera plus trouvée. » « Messire, disait Claès, votre bouche est pleine de colère, mais dites-moi, quand viendra le règne où ceux qui sont doux de cœur pourront vivre en paix sur la terre ?»« Jamais, répondit l'étranger, tant que régnera l'Antéchrist, qui est le pape et l'ennemi de toute vérité. » « Oh, disait Claès, mais vous parlez sans respect de notre Saint-Père. Il ignore absolument les cruels supplices dont on punit les pauvres réformés. » Mais l'étranger répondit, « Oh, il ne les ignore point, car c'est lui qui, dans ses arrêts, les fait exécuter par l'empereur, et maintenant par le roi, lequel jouit du bénéfice de confiscation, hérite des défunts, et fait volontiers aux riches des procès pour cause d'hérésie. » Alors Claès répondit, « Oh, dis-le ces choses au pays de Flandre, je dois les croire. La chair de l'homme est faible, même quand c'est chair royale. Oh, mon pauvre Jos !» Et Claès donnait ainsi à entendre que c'était par un vil désir de lucre que Sa Majesté punissait les hérésiarques. L'étranger ne voulant pas trop sciner, Claès répondit « Oh, de Dieu, messieurs, ne plus me tenir de pareils discours, qui, s'ils étaient entendus, me susciteraient quelque méchant procès. » Claès se leva pour aller à la cave et en remonta avec un pot de bière. « Je vais fermer la porte, » dit Taldi alors, et le dénonciateur n'entendit plus rien, car il dut sortir prestement de la maison. La porte ayant été fermée, fut toutefois rouverte à la nuit tombante. L'étranger en sortit, mais il revint bientôt y frapper, disant « Claes, j'ai froid, je ne sais où loger, donne-moi asile. Personne ne m'a vu entrer, la ville est déserte. » Alors Claes le reçut chez lui, alluma une lanterne, et on le vit, pressé dans l'hérétique, monter l'escalier et mener l'étranger sous le toit dans une petite chambre dont la fenêtre ouvrait sur la campagne. « Qui donc, s'écria Claës, peut avoir rapporté tout cela, si ce n'est toi, méchant poissonnier, que je vis le dimanche sur ton seuil, droit comme un poteau, regardant hypocritement en l'air voler les hirondelles ?» Et il désigna du doigt Josh Gripstweaver, doyen des poissonniers, qui montrait son laid museau dans la foule du peuple. Le poissonnier sourit méchamment en voyant Claës se trahir de la sorte. Tous ceux du populaire, hommes, femmes et fillettes, s'entredirent. Pauvre homme, ses paroles lui seront cause de mort, sans doute. Mais le greffier, continuant sa déclaration, « L'hérétique et Claës, dit-il, devisèrent cette nuit-là longuement ensemble, et aussi pendant 6 autres, durant lesquelles on pouvait voir l'étranger faire force gestes de menace ou de bénédiction, lever les bras au ciel comme tous ses pareils en raillerie. Claës paraissait approuver ses propos. Certes, durant ces journées, soirées et nuits, ils devisèrent opprobrieusement de la messe, de la confession, des indulgences et de sa majesté royale. « Mais nul ne l'a entendu, dit Claës, et l'on ne peut m'accuser ainsi sans preuve. » Le greffier est parti. « Oh, on a entendu autre chose. Lorsque l'étranger est sorti de chez toi, le 7e jour, à la 10e heure, le soir étant déjà tombé, tu lui fis route jusque près de la borne du champ de Kathleen. Là, il s'enquit de ce que tu avais fait des méchantes idoles, et le bailli se signa de Madame la Vierge, de Monsieur Saint-Nicolas et de Monsieur Saint-Martin. Tu répondis que tu les avais brisées et jetées dans le puits. Elles furent en effet trouvées dans ton puits la nuit dernière, et les morceaux en sont dans la grange de torture. À ce propos, Claës parut accablé. Le bailli lui demanda s'il n'avait rien à répondre. Claës fit signe de la tête que non. Le bailli lui demanda s'il ne voulait pas rétracter la maudite pensée qui lui avait fait briser les images et l'erreur impie en vertu de laquelle il avait prononcé les paroles opprobrieuses à sa majesté divine et à sa majesté royale. Claës répondit que son corps était à sa majesté royale, mais que sa conscience était à Christ, dont il voulait suivre la loi. Le bailli lui demanda si cette loi était celle de notre mère Sainte Église. Claës répondit, « Elle est dans le Saint-Évangile. » Sommé de répondre à la question de savoir si le pape est le représentant de Dieu sur la terre, « Non, dit-il. » Interrogé s'il croyait qu'il fut défendu d'adorer les images de Madame la Vierge et de Messieurs les Saints, il répondit que c'était de l'idolâtrie. Questionné sur le point de savoir si la confession auriculaire est chose bonne et salutaire, il répondit « Christ a dit « Confessez-vous les uns aux autres. » Il fut vaillant en ses réponses, quoiqu'il parût bien marri et effrayé au fond de son cœur. 8 heures étant sonnées, et le soir tombant, messieurs du tribunal se retirèrent, remettant au lendemain le jugement définitif. En la chaumine de Kathleen, Soetkin pleurait de douleur affolée, et elle disait sans cesse « Mon homme, mon pauvre homme !» Boulenspiegel et Nelly l'embrassaient avec grande effusion de tendresse. Elle, les pressant alors dans ses bras, pleurait en silence. Puis elle leur fit signe de la laisser seule. « Nelly, dit à Boulenspiegel, laissons-la, elle le veut. Sauvons les Carolus. » Ils s'enfuirent à deux. Kathleen tournait autour de Soetkin, disant « Creusez un trou, l'homme veut partir !» Et Soetkin, l'œil fixe, la regardait sans la voir. Les chaumines de Claes et de Kathleen se couchaient. Celle de Claes était en un enfoncement avec un jardinet devant la maison, et celle de Kathleen avait un clos planté de fèves donnant sur la rue. Le clos était entouré d'une haie vive, dans laquelle Eulenspiegel, pour aller chez Nell, et Nell, pour aller chez Eulenspiegel, avait fait un grand trou en leur jeune âge. Eulenspiegel et Nell vinrent dans le clos, et de là virent le soudard gardien, qui, le chef branlant, crachait en l'air, et la salive retombait sur son pourpoint. Un flacon d'osier gisait à côté de lui. « Nell, dit tout bas Eulenspiegel, ce soudard ivre n'a pas bu à sa soif. Il faut qu'il boive encore, nous serons ainsi les maîtres. Prenons le flacon. » Au son de leur voix, le lansquenet tourna de leur côté sa tête lourde, chercha son flacon, et ne le trouvant pas, continua de cracher en l'air et tâcha de voir, au clair de lune, tomber sa salive. « Il a bu brandevin jusqu'aux dents, » dit Eulenspiegel. « Entends-tu comme il crache avec peine ?» Cependant, le soudard, ayant beaucoup craché et regardé en l'air, étendit encore le bras pour mettre la main sur le flacon. Il le trouva, mit la bouche au goulot, pencha la tête en arrière, renversa le flacon, frappa dessus à petits coups pour lui faire donner tout son jus, et y têta comme un enfant au sein de sa mère. N'y trouvant rien, il se résigna, posa le flacon à côté de lui, jura quelque peu en haut allemand, cracha de rechef, branla la tête à droite et à gauche, et s'endormit, marmonnant d'inintelligibles patenôtres. Eulenspiegel, sachant que ce sommeil ne durerait point, et qu'il le fallait appesantir davantage, se glissa par la trouée faite dans la haie, prit le flacon du soudard et le donna à Nell, qui le remplit de brandevin. Le soudard ne cessait de ronfler. Eulenspiegel repassa par le trou de la haie, lui mit le flacon plein entre les jambes, rentra dans le clos de Kathleen et attendit avec elle derrière la haie. À cause de la fraîcheur de la liqueur nouvellement tirée, le soudard s'éveilla un peu et de son premier geste chercha ce qui lui donnait froid sous le pourpoint. Jugeant par intuition ivroniale que ce pourrait bien être un plein flacon, il y porta la main. Eulenspiegel et Nelly le virent à la lueur de la lune, secouer le flacon pour entendre le son de la liqueur, en goûter, rire, s'étonner qu'il fût si plein, boire un trait, puis une gorgée, le poser à terre, le reprendre et boire de rechef.
Puis il chanta, quand Seigneur Mann viendra dire bonsoir à Dame Z. Pour les hauts allemands, Dame Z, qui est la mère, est l'épouse du Seigneur Mann, qui est la lune et le maître des femmes. Donc il chanta, quand Seigneur Mann viendra dire bonsoir à Dame Z. Dame Zé lui servira un grand nappe de vin cuit quand Seigneur Mann viendra. Avec lui, elle soupera et maintes fois le baisera. Et quand il aura bien mangé, dans son lit le couchera quand Seigneur Mann viendra. Ainsi fasse de moi, mamie, gras souper, bon vin cuit. Ainsi fasse de voix, mamie, quand Seigneur Mann viendra. Puis, tour à tour, buvant et chantant un quatrain, il s'endormit. Et il ne put entendre un aile disant « Ils sont dans un pot, derrière le contrecœur de la cheminée, ni voir Eulenspiegel entrer par les tables, dans la cuisine de classe. » Levez la plaque du contre-cœur, trouvez le pot et les carolus, rentrez dans le clos de Kathleen, y cachez les carolus à côté du mur du puits, sachant bien que si on les cherchait, ce serait dedans et non dehors. Puis ils s'en retournèrent près de Sutkin et trouvèrent la dolente épouse pleurant et disant « Mon pauvre homme, mon homme, mon pauvre homme !» Nell et Eulenspiegel veillèrent près d'elle jusqu'au matin. Le lendemain, la Borgstorm appela à grande volée les juges au tribunal de la Wirtschaft. Quand ils se furent assis sur les quatre bancs autour de l'arbre de justice, ils interrogèrent de nouveau Claes, et lui demandèrent s'il voulait revenir de ses erreurs. Claes leva les mains vers le ciel. « Christ, mon Seigneur, me voit d'en haut, dit-il. Je regardais son soleil lorsque naquit mon fils, Eulenspiegel. Où est-il maintenant, le vagabond ? Sainte Clin, ma douce commère, seras-tu brave contre l'infortune ? Puis regardant le tilleul, il dit le maudissant. Ô temps et sécheresse, faites que les arbres de la terre des pères périssent tous sur pied plutôt que de voir sous leur ombre juger à mort la libre conscience. Où es-tu, mon fils, Eulenspiegel ? Je fus dur envers toi. Messieurs, prenez-moi en pitié et jugez-moi comme le ferait notre Seigneur, miséricordieux. » Et tous ceux qui l'écoutaient pleuraient fort les juges. Puis il demanda s'il n'y avait nul pardon pour lui, disant « Je travaillais toujours, gagnant peu. Je fus bon aux pauvres et doux à chacun. J'ai quitté l'église romaine pour obéir à l'Esprit de Dieu qui me parla. Je n'implore nulle grâce que de commuer la peine du feu en celle du bannissement perpétuel du pays de Flandre pour la vie, peine déjà grande toutefois. » Et tous ceux qui étaient présents crièrent « Pitié, messieurs, miséricorde !» Mais Jos Gripstweaver ne cria point. Le bailli fit signe aux assistants de se taire et dit que les placards contenaient la défense expresse de demander grâce pour les hérétiques, mais que si Claes voulait abjurer son erreur, il serait exécuté par la corde au lieu de l'être par le feu. Et l'on disait dans le peuple « Oh, feu ou corde, c'est mort !» Et les femmes pleuraient et les hommes grondaient sourdement. Claes dit alors, « Je n'abjurerai point, Faites de mon corps ce qu'il plaira à votre miséricorde. Le doyen de Renex, Tittelmann, s'écria. Il est intolérable de voir une telle vermine d'hérétiques lever la tête devant leur juge. Brûler leur corps est une peine passagère. Il faut sauver leurs âmes et les forcer par la torture à renier leurs erreurs afin qu'ils ne donnent point au peuple le spectacle dangereux d'hérétiques mourant dans la pénitence finale. À ce propos, les femmes pleurèrent davantage et les hommes dirent où il y a aveu, il y a peine et non torture. Le tribunal décida que, la torture n'étant point prescrite par les ordonnances, il n'y avait pas lieu de la faire souffrir à Claës. Sommé encore une fois l'abjuré, il répondit « Non, je ne le puis ». Il fut, en vertu des placards, déclaré coupable de simonie à cause de la vente des indulgences, hérétique, receleur d'hérétiques, et comme tel, condamné à être brûlé vif jusqu'à ce que mort s'en suivît devant les bailles de la maison commune. Son corps serait laissé pendant 2 jours attaché à l'estache pour servir d'exemple, et ensuite inhumé au lieu où le sont de coutume les corps des suppliciés. Le tribunal accordait au dénonciateur Jos Gripstweaver, qui ne fut point nommé, 50 florins sur les 100 premiers florins corollus de l'héritage et le 10e sur le restant. Ayant entendu cette sentence, Claës dit au doyen des poissonniers « Tu mourras de mal mort, méchant homme, qui pour un denier fais une veuve d'une épouse heureuse et d'un fils joyeux, indolent orphelin. » Les juges avaient laissé parler Claës, car eux aussi, sauf Tittelmann, tenaient en grand mépris la dénonciation du doyen des poissonniers. Et Claës fut ramené dans sa prison. Le lendemain, qui était la veille du supplice de Claës, la sentence fut connue de Nele d'Ullenspiegel et de Sötkin. Ils demandèrent au juge de pouvoir entrer dans la prison, ce qui leur fut accordé, mais non pas à Nele. Quand ils entrèrent, ils virent Claës attaché au mur avec une longue chaîne. Un petit feu de bois brûlait dans la cheminée à cause de l'humidité. Car il est de par droit et loi en Flandre commandé d'être doux à ceux qui vont mourir et de leur donner du pain, de la viande ou du fromage et du vin. Mais les avares geôliers contreviennent souvent à la loi et il en est beaucoup qui mangent la plus grosse part et les meilleurs morceaux de la nourriture des pauvres prisonniers. Claës embrassa en pleurant Ullenspiegel et Sötkin, mais il fut le premier qui eut les yeux secs parce qu'il le voulait, étant homme et chef de famille. Sötkin pleurait et Ullenspiegel disait « Oh, je veux briser ces méchants fers !» Sötkin pleurait, disant oh, « J'irai au roi Philippe, il fera grâce. » Claës répondit « Le roi hérite des biens des martyrs. » Puis il ajouta « Femme et fils aimés, je m'en vais aller tristement de ce monde et douloureusement. Si j'ai quelque appréhension de souffrance pour mon corps, je suis bien marié aussi, songeant que moi n'étant plus... Vous deviendrez tous deux pauvres et misérables, car le roi vous prendra votre bien.
Eulenspiegel répondit parlant à voix basse. L'élève a tout sauvé hier avec moi.
J'en suis aise, repartit Klaes. Le dénonciateur ne rira pas sur ma dépouille.
Qu'il meure plutôt, dit Sutkin, l'œil haineux, sans pleurer.
Mais Klaes, songeant au Kaolus, dit
Tu fus subtil, Tilkan, mon mignon. Elle n'aura donc point fin son vieillage, cette cline, ma veuve.
Et Klaes l'embrassait, la serrant fort contre sa poitrine, et elle pleurait davantage, songeant que bientôt elle perdrait sa douce protection. Klaes regardait Eulenspiegel et lui disait « Fils, tu péchas souvent, courant les grands chemins, ainsi que font les mauvais garçons. Il faut plus le faire, mon enfant, ni laisser seul au logis la veuve affligée, car tu lui dois défense et protection, toi le mâle. »
« Père, je le ferai, » dit Eulenspiegel.
« Oh, mon pauvre homme, » disait Sutkin en l'embrassant, « quel grand crime avons-nous commis ? Nous vivions à deux, paisiblement, d'une honnête et petite vie, nous aimant bien. Seigneur Dieu, tu le sais, nous nous levions tôt pour travailler, et le soir, en te rendant grâce, nous mangions le pain de la journée. Oh, je veux aller au roi et le déchirer de mes ongles. Seigneur Dieu, nous ne fûmes point coupables. »
Le geôlier entra et dit qu'il fallait partir.
Sutkin demanda de rester. Klaes sentait son pauvre visage brûler le sien, et les larmes de Sutkin tombant à flots mouillaient ses joues et tout son pauvre corps frissonnant et tressaillant dans ses bras. Il demanda qu'elle restât près de lui. Le geôlier dit encore qu'il fallait partir, et ôta Sutkin des bras de Klaes. Klaes dit à Eulenspiegel, « Veille sur elle !» Celui-ci répondit qu'il le ferait. Et Eulenspiegel et Sutkin s'enfuirent à deux, le fils soutenant la mère. Le lendemain, qui était le jour du supplice, les voisins vinrent et par pitié enfermèrent ensemble dans la maison de Kathleen Eulenspiegel, Sutkin et Nelly. Mais ils n'avaient point pensé qu'ils pouvaient de loin entendre les cris du patient et par les fenêtres voir la flamme du bûcher.
Kathleen rôdait par la ville, hochant la tête et disant « Faites un trou, l'âme veut sortir !»
À 9 heures, Klaes, en son linge, les mains liées derrière le dos, fut mené hors de sa prison. Suivant la sentence, le bûcher était dressé dans la rue de Notre-Dame, autour d'un poteau planté devant les bailles de la maison commune. Le bourreau et ses aides n'avaient pas encore fini d'empiler le bois. Klaes, au milieu de ses happes chères, attendait patiemment que cette besogne fût faite, tandis que le prévôt à cheval et les estafiers du bailliage et les 9 lansquenets appelés de Bruges pouvaient à grand-peine tenir en respect le peuple grondant. Tous disaient que c'était cruauté de meurtrir ainsi, en ces vieux jours, injustement, un pauvre bonhomme si doux, miséricordieux et vaillant au labeur. Soudain, ils se mirent à genoux et prièrent. Les cloches de Notre-Dame sonnaient pour les morts. Kathleen était aussi dans la foule du peuple, au premier rang, toute folle. Regardant Klaes, le bûcher, elle disait, hochant la tête,
Oh, le feu, faites un trou, l'âme veut sortir. Ceux qui l'aînaient, et entendant le son des cloches, se signèrent toutes deux. Mais Eulenspiegel ne le fit point, disant qu'il ne voulait point adorer Dieu à la façon des bourreaux. Et il courait dans la chaumine, cherchant à enfoncer les portes et à sauter par les fenêtres, mais toutes étaient gardées. Soudain, Sutkin s'écria, en se cachant le visage dans son tablier, « La fumée !» Les trois affligés virent en effet dans le ciel un grand tourbillon de fumée toute noire. C'était celle du bûcher sur lequel se trouvait Claës attaché à un poteau et que le bourreau venait d'allumer en trois endroits au nom de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Claës regardait autour de lui et n'apercevant point dans la foule Sutkin et Eulenspiegel, il fut aise en songeant qu'il ne le verrait pas souffrir. On n'entendait nul autre bruit que la voix de Claës priant, le bois crépitant, les hommes grondant, les femmes pleurant. Catherine disait « Ôtez le feu, faites un trou, l'âme veut sortir !» et les cloches de Notre-Dame sonnant pour les morts. Soudain, Sutkin devint blanche comme neige, frissonna de tout son corps sans pleurer et montra du doigt le ciel. Une flamme longue et étroite venait de jaillir du bûcher et s'élevait par instants au-dessus des toits des basses maisons. Elle fut cruellement douloureuse à Claës, car, suivant les caprices du vent, elle rongeait ses jambes, touchait sa barbe et la faisait fumer, léchait les cheveux et les brûlait. Eulenspiegel tenait Sutkin dans ses bras et voulait l'arracher de la fenêtre. Ils entendirent un cri aigu, c'était celui que jetait Claës, dont le corps ne brûlait que d'un côté. Mais il se tut et pleura et sa poitrine était toute mouillée de ses larmes. Puis Sutkin et Eulenspiegel entendirent un grand bruit de voix. C'étaient des bourgeois, des femmes et des enfants criant. Claës n'a pas été condamné à brûler à petit feu, mais à la grande flamme. Bourreau, attise le bûcher. Le bourreau le fit, mais le feu ne s'allumait pas assez vite. « Mais tremble-le » crièrent-ils. Ils jetèrent des pierres au prévôt. « La flamme, la grande flamme !» cria Sutkin. En effet, une flamme rouge montait dans le ciel au milieu de la fumée. « Il va mourir !» dit la veuve. « Seigneur Dieu, prenez en pitié l'âme de l'innocent. » Où est le roi? Que je lui arrache le cœur avec mes ongles. Les cloches de Notre-Dame sonnaient pour les morts. Sutkin entendit encore Claës jeter un grand cri, mais elle ne vit point son corps se tordant à cause de la douleur du feu, ni son visage se contractant, ni sa tête qu'il tournait de tous côtés, et cognait contre le bois de l'Estache. Le peuple continuait de crier et de siffler. Les femmes et les garçons jetaient des pierres. Quand soudain le bûcher tout entier s'enflamma, et tous entendirent, au milieu de la flamme et celle de la fumée, Claës disant « Sutkin, til !» Et sa tête se pencha sur sa poitrine comme une tête de plomb. Et un cri lamentable et aigu fut entendu sortant de la chaumine de Kathleen. Puis nul n'ouït plus rien, sinon la pauvre affolée, hochant la tête et disant « L'homme veut sortir !» Claës avait trépassé. Le bûcher ayant brûlé, s'affaissa au pied du poteau, et le pauvre corps, tout noir, y resta pendu par le cou. Et les cloches de Notre-Dame sonnaient pour les morts.